Donc après la guerre en 1945, Marie à l'époque est âgée de 63 ans, donc elle continue son œuvre, son militantisme et son service de psychanalyse, mais elle va un petit peu s'éloigner parce que des conflits apparaissent, des conflits théologiques, on va dire, entre écoles. Alors, on sait, il y a Lacan, sur les techniques et sur les conceptions de la psychanalyse. Voilà. Il y a aussi, cité la fille de Freud, Anna Freud, qui fut qui a mis en place une école aussi de pensée à la suite de son père. Il y a eu diverses approches psychanalytiques. Et elle défend, par exemple, ce qu'on appelle, une expression un peu, pas pédante, mais l'analyse laïque ou analyse profane. Mais en fait, c'est tout simple. Ça veut dire que, c'est l'analyse peut être pratiquée par un non-médecin. Voilà. Donc, Marie, d'ailleurs, qui n'est pas médecin et qui exerce la psychanalyse, défend cette pratique du psychanalyste non-médecin. Elle défend d'ailleurs dans un procès une psychanalyste, j'ai noté son nom quelque part, mais peu importe, qui était accusée et qui était assignée par ses confrères, donc médecin psychanalyste, devant le tribunal civil, vous voyez, pour exercice illégal ou pénal pour exercice illégal de la médecine. Donc elle est pour cette psychanalyse, disons, hors du champ strictement médical. Donc Georges, son époux, qui fut son ami de toute une vie, ils ne furent pas vraiment époux, mais ils ont eu deux enfants quand même, et c'est une profonde amitié. Il meurt le 29 novembre 1957, par la suite, elle va voyager. Alors, elle fait le tour de la planète un petit peu, c'est un petit peu son slogan. Avant de mourir, il faut avoir parcouru, il faut avoir fait le tour du monde avant de mourir. Alors là, c'est bien sûr avec les moyens, c'est une globe-trotteur, ça. Donc, on va avoir un coucher de soleil à Fort-Lamy, ensuite on est en Amérique du Sud, et ensuite en Asie. Bon. Et puis elle s'engage aussi politiquement. Elle défend, par exemple, parmi d'autres, Caryl Chesterman. Vous savez, ce condamné, il avait tué. C'était un assassin, d'ailleurs, il a commis pas mal de crimes, je crois, donc je ne sais pas si on peut qualifier de serial killer, et il avait fini sur la chaise électrique, mais il avait écrit, c'était un intellectuel, et il avait mobilisé dans le monde entier, donc elle défend sa cause, mais sans succès. Et elle va finir sa vie, elle aura une fracture du fémur, et puis elle sera atteinte d'une leucémie, et donc elle se retire dans sa villa, le Lys de Mer, près de Saint-Tropez, où elle va s'éteindre le 22 septembre 1962. Donc, elle n'est peut-être pas très connue, mais c'est une personnalité importante dans la naissance et le développement de la psychanalyse en France. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'ajouter quelques petits commentaires. Alors, par exemple, je vais vous parler, parce que j'avais parlé des trois traumatismes sérieux. Son enfance, déjà, l'indifférence de la perte de sa mère, le soupçon de crime commis sur sa mère par son père et sa grand-mère, et puis l'idylle avec Léandri, le secrétaire corse à qui elle croyait, bon, le chantage, et puis le mariage bizarre avec son époux, un mariage de raison, et voilà, qui fait que ça sera une sorte de ménage à trois, voilà. Elle aura de son côté des amants, mais bon. Et puis peut-être un traumatisme antérieur qui remonte à ses... Alors son grand-père Pierre Bonaparte, je n'y reviens pas, je l'ai dit dans le début, il était un petit peu le canard boiteux de la famille Bonaparte, en fait gravement. Il avait, en juin 1833, il avait assassiné un officier de la garde pontificale, c'était les révoltes contre le pape. Et puis, j'allais dire plus grave encore, mais plus médiatisé, dirions-nous aujourd'hui, 9 janvier 1870, il avait tué un journaliste sous le Second Empire, sous le règne de son cousin, Napoléon III. Il avait tué Victor Noir, qui était un journaliste qui défendait le fondateur de la Marseillaise, Henri Rochefort. Voilà, il avait tiré. Donc, il avait été acquitté. Voilà. Parce que c'était sous le Second Empire et que Napoléon III était régné. Mais c'était la fin. En janvier 1870, on sait ce qu'il était devenu en septembre 1870 du Second Empire. Donc voilà, peut-être était-ce aussi un traumatisme d'avant sa naissance. Hein, voilà. Et puis, j'ai évoqué sa liaison avec Aristide Briand, c'était pour elle l'amant idéal, elle en garde un merveilleux souvenir dans ses écrits. Voilà. Donc elle reste dans la mémoire, un peu oubliée. Elle mérite probablement d'être plus connue. Et sur les photos, on la voit, j'ai des photos là sur je réfère notamment à un numéro d'Historia. On n'imagine pas tous les tourments. On a l'impression d'une jeune femme enjouée, joyeuse, rieuse, voilà. Et puis on la voit aussi avec ses petits-enfants plus âgés, ses petits-enfants qu'il adorait, sa fille. Eugénie. Alors, il y avait Tatiana, née en 39, Georges en 42, Charles en 1952. Et c'était une grand-mère fantasque, mais il l'adorait. Voilà. Donc, chers auditeurs, eh bien, j'ai été heureux de vous retrouver après cette période de rediffusion estivale. Nous allons continuer à nous retrouver, donc toutes les semaines. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai d'un écrivain d'Honoré de Balzac.